Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Swear. Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec Monsieur Lionel Brézéfin, cadre technique à la Fédération Française de Boxe. Donc on va parler, Lionel, de ta carrière, du MMA en France bien évidemment, mais aussi des compétitions IMAF qui ont quand même une part importante dans le MMA et qui veulent prendre un petit peu de la place au fur et à mesure des années pour pourquoi pas que le MMA devienne un sport olympique d'ici LA 2028. Donc Lionel, déjà, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous surtout pour l'invitation, ça fait plaisir.
Et est-ce que tu peux un petit peu déjà te présenter, on va dire, quelles sont tes responsabilités au sein de la FFBox et puis ton parcours aussi, parce que c'est vrai que tu es dans le circuit depuis un petit moment.
Bah, au sein de la FFBox, j'interviens en qualité de cadre technique national. Donc je suis un cadre d'État, je suis payé par l'État et j'interviens dans le projet de structuration du MMA. Et je suis aussi coordinateur de la performance au sein des pôles. Et là, j'accompagne justement ce projet de structuration, puisqu'en fait, j'ai collaboré avec Jean-Baptiste Marceau, le directeur administratif et financier, et Arnaud Romera à l'élaboration en fait de l'AMI, qui a permis l'obtention de la délégation le 31 janvier.
Et comment ça s'est passé exactement? Comment ils sont venus vers toi? Parce que on t'avait déjà interviewé, donc là, quand tu évoluais, on va dire, pour représenter la France finalement en tant que head coach, comment ça s'est passé ensuite pour aller jusqu'à la Fédération de Boxe?
En fait, initialement, moi, j'avais passé tous mes diplômes fédéraux au sein de la Fédération française de kickboxing et Muay Thai. Donc, j'étais à la FFKMDA. Ensuite, j'ai passé un BP à la FFKMDA. Ensuite, j'ai passé un DES. Et avec le DES, j'ai pu passer le concours de professorat de sport, mention boxe. Puisqu'en fait, tous les deux ans, il y avait un concours de publié pour la boxe. Il n'y avait pas de concours publié pour le pied-point. Donc en fait, l'activité qui se rapprochait un peu de celle que je connaissais, c'était la boxe. Du coup, j'ai passé le concours et j'ai été reçu au concours. Donc c'est comme ça que la Fédération française de boxe a pris connaissance en fait de mon existence. Et à l'issue du concours, j'ai pu intégrer en mars 2019 les effectifs de la Fédération française de boxe. Et le dossier, l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, est arrivé en juillet. Donc comme le DTN savait que moi je venais du MMA et du pied-point notamment, eh ben, il m'a proposé de constituer et de participer justement à l'élaboration du dossier de l'AMI. Voilà. Donc en fait, c'est moi qui suis allé vers eux.
Et on va dire que là, les derniers mois, pour toi, tu les as vécus comment? Parce que nous, on va dire en tant que fans, et puis les ressentis qu'on a, hein, les gens, il y a énormément d'attentes. Mais pour toi, est-ce que ça a été, lors des assises, vous aviez bien dit vous étiez vraiment attendu au tournoi, est-ce que ça a été hyper challengeant? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu as été surpris par, je ne sais pas moi, tous les médias qui sont intéressés à ce que vous faisiez? Explique-nous un petit peu.
En fait, la constitution du dossier, moi, comme tu l'as dit, j'avais travaillé aussi avec la CFMMA, donc l'environnement MMA, c'est un environnement que je connaissais assez bien. Le fait d'avoir fait aussi un parcours avec notamment le DES à l'INSEP, etc., ça permet aussi d'avoir des perspectives et une vision du sport qui est un petit peu plus élargie, puisqu'on met en place notamment tout ce qui est question de développement, de formation, enfin tous les aspects qui tournent autour de l'activité MMA, pas uniquement l'aspect compétitif. Ce qui fait qu'à la constitution du dossier, pour moi, le dossier était solide et c'était cohérent, en fait. J'ai été... Ce qui m'a surpris, c'est que les gens ne comprennent pas que ce soit la boxe qui puisse l'avoir, étant établi qu'il n'y avait pas de discipline proche du MMA en boxe, en fait. Ouais. Mais quand toi, tu fabriques le dossier et que tu sais quels sont les points sur lesquels le ministère est sensible, quels sont les axes de développement que tu peux apporter, en fait, pour nous, c'est une continuité du projet. Après, les acteurs, ils sont, oui, dans l'attente et dans l'expectative. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir les rassurer dans un premier temps et puis dans un second temps, apporter aussi tout ce dont ils ont besoin pour que ce développement, justement, se fasse le mieux possible et le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions.
Et là, est-ce que le coronavirus va jouer un petit peu? On a l'impression que non, mais peut-être que ça va avoir un impact sur le calendrier.
Alors, le pari dès le départ, ça a été de digitaliser. C'est-à-dire que l'environnement sportif, on le connaît. La structuration fédérale, pour la fédération de boxe, elle a été montée en 1905. Donc, c'est une fédération qui est assez ancienne. Le but du jeu, ce n'était pas de faire un copier-coller. Aujourd'hui, on sait que l'environnement sportif, il est différent. On a une émergence des structures privées. Donc, en fait, on ne peut plus proposer un schéma fédéral qui correspond à un schéma fédéral, ne serait-ce que d'il y a 10 ans, puisqu'en fait, le contexte économique autour du sport n'était pas du tout le même. Donc, en fait, on est parti sur l'idée de tout digitaliser dès le départ, y compris les formations. Donc, la chose la plus importante et la mise en œuvre prioritaire, c'est les formations pour qu'on puisse avoir des gens qui soient aptes et qualifiés pour encadrer l'activité MMA à partir du moment où ça sera lancé, c'est-à-dire en septembre. Mmh. Donc là, la plateforme de formation est en ligne. Il n'y a qu'une partie qui sera en présentiel. Donc le confinement va peut-être altérer ce que nous, on avait prévu pour les validations en présentiel, notamment la validation pédagogique.
Mmh. Et comment est-ce qu'elles se passent, du coup, les formations en ligne?
Donc, tu vas souscrire en fait avec une tarification, tu vas souscrire un accès et cet accès te permettra d'accéder aux différents contenus. Les contenus sont répartis en capsules, donc tu auras une capsule par exemple sur la sécurité de la pratique, une capsule sur la gestion des publics. En fait, comme on retrouve sur une qualification de formation sportive classique, sauf que tu pourras le faire de chez toi, sur ta tablette, sur ton smartphone, ou etc. Et à l'issue de ça, tu auras des QCM donc, qui sont chronométrés, qui sont en rapport avec les cours que toi, tu as eu l'opportunité d'étudier. Et puis, tu vas valider comme ça tout ton parcours. C'est un parcours de qualification classique. Ce qui fait que toute la partie théorique, tu l'auras déjà faite chez toi, à ton rythme. Tu auras juste à venir et t'inscrire sur des séances de validation en présentiel de la méthodologie et de la pédagogie, en fait.
C'est un peu comme quand on passe le code, quoi.
Bah, moi, ça fait longtemps que j'ai passé le code. Je pense qu'à l'époque, il y avait encore des chevaux et tout ça, tu vois, des voitures à vapeur. Mais ouais, je pense que c'est comme c'est un dispositif qu'on retrouve dans l'environnement professionnel. Moi, je viens de l'informatique initialement et je sais qu'on avait des cursus de certification qui étaient faits comme ça. On en retrouve sur des plateformes comme Open Classroom ou des choses comme ça, ou même les MOOC, ce qu'on appelle l'enseignement massif, où tu peux passer des diplômes universitaires de cette manière-là. Nous, on va le faire à une échelle beaucoup plus réduite, parce que ce sera au niveau fédéral. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi de déposer un contenu qui sera diffusé pour toute la France. On a tous le même. Donc, qu'on soit ici, que tu sois dans un endroit isolé, ou que tu sois loin de la métropole, comme les Outre-mer, le contenu de formation est le même, et n'importe qui peut suivre la formation. Si tu es en horaire décalé, c'est pareil. Tu fais ça quand tu peux. Tu fais toute ta validation théorique à ton rythme, en fait.
Voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Bah, c'est pour le coup, ça ressemble beaucoup au code dans le sens où tu fais toute ta formation théorique d'abord et pour passer le permis ensuite, tu es obligé de le faire évidemment en réel et tu ne peux sinon pas avoir ta formation. Ça, c'est vrai que ça a du sens. Hein.
Bah, c'est ça, c'est l'idée. Je ne savais pas que ça se passait comme ça.
Eh bien, si, maintenant c'est comme ça.
On dit toujours automobile ou on dit voiture?
Et normalement, cette formation-là, pour ceux qui exercent déjà, qui sont déjà coach, ça doit être normalement une simple formalité. Enfin, on ne va pas avoir un écrémage au niveau de tous les enseignants aujourd'hui.
Non, en fait, il y aura des allègements. Après, il faut aussi bien comprendre que le MMA est une activité dans son enseignement et sa validation qui est nouvelle. Donc, à l'exception des cursus IMAF, qui eux formaient spécifiquement sur le MMA, pour un cursus par exemple même Pancras, le Pancras n'étant pas exactement du MMA, ou la lutte, grappling, ce n'est pas exactement du MMA, donc en fait, il y aura quand même des modules théoriques supplémentaires qui correspondront à tous les gens qui ont déjà soit des diplômes fédéraux, soit des diplômes d'État dans toutes ces disciplines un peu voisines dans lesquelles qu'on utilise. C'est les diplômes que nous, on utilisait de toute manière pour exercer et enseigner le MMA.
Et le fait qu'il y ait différents niveaux pour les athlètes, donc ça va être 5 niveaux si j'ai bien compris lors des assises du MMA, avec, tu as bien communiqué là-dessus sur le fait qu'il allait avoir justement, c'était un peu calqué aussi sur l'IMAF, c'est vous allez travailler directement avec eux pour pouvoir permettre à ceux qui évoluent au niveau amateur de justement participer à ces compétitions internationales aussi, c'est aussi l'objectif ?
Oui, on est en synergie avec le dispositif mis en place par l'IMAF, on sera sur 4 niveaux. Donc, deux niveaux amateurs et deux niveaux professionnels. Donc, le but du jeu, c'est premier niveau amateur, c'est une classe B qui est introductive. C'est si jamais on veut se tester sur le MMA, donc avec des temps particuliers, des protections particulières. Ensuite, il y a la classe A, et la classe A correspond aux attendus, justement, de l'IMAF. Donc, ça veut dire que les gens qui seront déjà sur du haut niveau en classe A pourront ensuite évoluer sur le circuit IMAF, Open d'Europe ou Championnat du Monde. Ensuite, il y a la classe promotionnelle Pro B et promotionnelle Pro B, et ensuite il y aura la classe Pro A. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'au niveau des professionnels, on essaye de sécuriser vraiment la pratique pour les professionnels, d'une part, et aussi leur permettre d'avoir un petit peu plus de sécurité et moins de précarité. Ça veut dire qu'on aimerait qu'on ait un vrai statut professionnel, comme on le retrouve au foot, au hand, ou dans n'importe quel autre sport avec une ligue pro, et que tu aies une couverture sociale aussi, quoi. C'est-à-dire que tu ne sois pas juste à prendre des bourses, et puis au final, pas avoir la protection qui va avec, quoi.
Et pour ça, ça va être compliqué à, on va dire, mettre en place au niveau, je ne sais pas moi, des assurances, parce que tu avais parlé de ça justement, qu'elle est à vous, la fédération, elle est directement travaillée avec les assureurs. On sait que même aux États-Unis, c'est un énorme problème pour les athlètes. Est-ce que là, vous, c'est vraiment un point hyper important de réussir à ce que les athlètes aient une sécurité pour eux, parce qu'ils peuvent avoir des blessures hyper traumatisantes?
Bien sûr, c'est une de nos préoccupations. C'est ce qui explique le soin qu'on apporte comme ça, même si c'est parfois perçu comme une volonté de cadrer, couper les cheveux en quatre, etc. C'est pas du tout la démarche. La démarche, c'est que on pense à ce qui peut arriver de pire. C'est-à-dire, si jamais j'ai un athlète, si jamais il se passe ça, comment on fait, comment on peut réagir, comment on peut éviter que ça arrive, en fait. Donc, pour pas que ça arrive, on met en place tout un dispositif en amont pour pas qu'on soit gêné. On est déjà en discussion avec un assureur au sein de la fédération. Donc, on a eu un entretien, notamment la semaine dernière. On a déjà eu des propositions tarifaires qui restent cohérentes, mais sur lesquelles on va encore continuer de travailler. Et les conditions tarifaires sont liées à la perception que l'assureur a aussi de l'activité. Donc, c'est-à-dire que nous, maintenant, on doit le rassurer avec des statistiques, proposer un ensemble de statistiques sur un panel assez long, parce que l'assureur, lui, pour lui, c'est tout nouveau. Donc, il ne peut pas déterminer quelle est finalement la dangerosité de l'activité. Donc, là-dessus, on travaille aussi avec d'autres organisations et des grandes organisations qui peuvent mettre à notre disposition une base de données statistiques. On travaille avec l'IMAF. J'ai contacté aussi Ludovic Boulevin de la BMAF en Belgique pour savoir si eux, comme ils étaient dans une situation similaire il y a encore quelques années, s'ils avaient aussi eu cette problématique et s'ils avaient éventuellement des statistiques à nous transmettre. Et c'est ça qui va faire le prix de la licence. Après, bien sûr, on aura une licence professionnelle qui sera plus chère que celle qu'on attend en amateur. C'est lié au risque lié. Ouais. Mais il faut savoir qu'en boxe, la licence, elle couvre aussi le boxeur quand il part à l'étranger.
D'accord.
Donc, ça veut dire que nous, ce qu'on espère, enfin, ce qui serait agréable, c'est que si tu pars demain faire ton combat en Biélorussie, que tu sois quand même couvert par ta licence et par l'assurance qui est rattachée parce que tu exerces en qualité de professionnel. Donc ça, on sait aussi que l'environnement du MMA en France, il s'est structuré de manière comme ça, un petit peu en parallèle du mouvement sportif, et que la perception de la licence, elle n'est pas toujours claire. On pense que c'est un moyen pour la fédération de percevoir de l'argent ou des choses comme ça, mais à cette licence, il y a énormément de choses qui sont attachées. Donc, tu as ton assurance notamment, tu as le fait de pouvoir passer tes grades ou pouvoir aller en formation. Enfin, il y a tout un ensemble de services, entre guillemets, qui sont rattachés à l'assurance. L'assurance, c'est pas uniquement prendre de l'argent pour prendre de l'argent, en fait. À l'intérieur, on a aussi le prix des locaux, le prix des ressources qui vont travailler, le prix de l'assurance. En fait, il y a beaucoup de choses qui se greffent autour de la licence, mais majoritairement, c'est vrai que tu as raison, c'est l'assurance. Mmh.
Et comment est-ce que ça se passe exactement ce genre de choses? Parce qu'on sait qu'il y a généralement tout ce qui se passe en Amérique du Nord, qui est généralement un petit peu le Far West, et ce qui se passe plutôt dans les pays de l'Est, où c'est beaucoup plus cadré et ils ont déjà une certaine expérience de ce genre de choses. Comment est-ce qu'ils s'organisent dans les pays de l'Est pour tout ce qui est licence, pour tout ce qui est ce que ça couvre, sécurité de l'athlète, etc. Et est-ce que vous en êtes inspiré?
Alors, on ne s'est pas inspiré de systèmes autres que le nôtre. Enfin, autre que le nôtre, c'est pas très joli, mais on s'est pas inspiré d'autres systèmes que le système français, parce que le système français, et ça c'est pareil, parfois c'est pas forcément bien perçu ou bien interprété, mais on a un cadre juridique, entre guillemets, on a un cadre institutionnel qui est établi depuis maintenant très longtemps et auxquelles nous, on ne peut pas déroger. Donc ça veut dire que la délégation, c'est une délégation de pouvoir du ministère accordée pour l'encadrement de la discipline, et cette délégation, bah, elle est dans... on attend beaucoup de choses de la fédération. Donc nous, on ne peut pas déroger. Donc s'inspirer du modèle américain, ça n'aurait pas de sens, puisqu'en fait, ici, c'est complètement différent. Et s'inspirer de ce qu'on trouve dans un autre pays européen, même européen proche, hein, type ne serait-ce que Belgique ou Angleterre, mais ne serait-ce que Belgique ou Allemagne, en fait, bah, c'est pareil, ça n'aurait pas de... on ne pourrait pas le transposer. Donc en fait, on est obligé d'avoir certaines préconisations au niveau de l'assurance, au niveau des diplômes, pour qu'on puisse avoir les diplômes d'État aussi, c'est pareil, c'est tout un cheminement qui est très cadré, et on nous demande énormément d'informations pour pouvoir parvenir à cela, en fait.
Et donc Lionel, toi, tu avais été donc, au championnat du monde amateur, on voit bien que les pays de l'Est, justement, dominent parce qu'ils sont soutenus financièrement, entre guillemets, par, bah, ils ont un statut... par les fédérations qui sont mises en place. Dans la volonté de ce qui a été évoqué lors des assises du MMA, on voit vraiment que le parcours amateur, vous mettez vraiment l'accent là-dessus. Est-ce que pour toi, l'objectif, c'est que quand les athlètes soient amateurs, ils puissent justement bénéficier soit de bourses ou d'accompagnement, de façon à ce que quelqu'un qui débute, je ne sais pas moi, je vais dire à 25 ans, il ne soit pas obligé de se dire « je passe pro directement » et dire bah, « je vais avoir la fédération qui va me soutenir pendant ces 2 ans » et toi, tu travailles avec eux pour dire bah, « on a les championnats d'Europe, les mondiaux » et ensuite, quand tu passes pro, bah, là, ça devient vraiment intéressant pour toi.
Bah, en fait, c'est exactement ça. Donc, en vérité, ce n'est pas tant la fédération qui te soutient, c'est le mouvement sportif, dans le sens où ce qu'on aimerait, et c'est ce qu'on vise, je ne sais pas, on va tout faire pour y parvenir, mais c'est l'obtention du statut sportif de haut niveau, en fait. Donc, le statut sportif de haut niveau permet d'avoir des dispositions particulières et tu peux avoir aussi ce qu'on appelle le double projet, c'est-à-dire que tu peux avoir ta carrière sportive et en parallèle, tu peux avoir ta vie d'athlète. Tu peux passer un diplôme aussi sur des créneaux aménagés. Tu peux avoir des partenariats. Tu peux avoir une reconnaissance aussi de certaines collectivités territoriales. C'est-à-dire que tu peux avoir ta mairie qui te donne une allocation, plus le conseil général, etc. Donc, ça te permet quand même d'avoir un revenu. Et puis, pour le coup, bah, tu peux aussi te focaliser, toi, sur ta carrière d'athlète ou sur la compétition. Donc, ça, c'est des choses qu'on obtient avec le statut sportif de haut niveau. Mais après, si tu veux, c'est comme un fil que tu tires. C'est-à-dire que c'est ce que tu veux. Maintenant, comment on fait pour l'obtenir ? Bah, tu tires le fil, on dit ah, « bah, si vous voulez statut sportif de haut niveau, il faut que vous ayez des compétitions de référence. » Donc après, on nous demande bah, « quelles sont les compétitions de référence ?» Bah, en l'occurrence, il faut qu'on évoque ce qui se fait avec l'IMAF, parce qu'aujourd'hui, on a un rayonnement européen et puis même mondial. Et donc après, il faut à chaque fois remonter le fil. Et après, quels sont nos cursus de formation ? Quels sont nos cursus de sélection ? Et en fait, à chaque fois, il faut que nous, on soit capable de justifier. Et une fois que ça, ce sera justifié et bien justifié, on espère pouvoir obtenir ce statut, en fait.
Et pour l'instant, quel a été dans tout ce processus, on va dire, ce qui a été le plus challengeant, on va dire, pour vous, jusqu'à maintenant ?
Là, pour l'instant, c'est l'adhésion. C'est-à-dire que ce qu'on espère, on est confiant sur le projet. Donc, en fait, nous, ce qu'on espère, c'est un maximum d'adhésion, puisqu'en fait, moi, je veux l'aborder comme un projet collectif. Et donc, plus j'ai d'adhésion, plus c'est collectif. Et en fait, plus on a d'idées et plus on a de personnes de ressources qui sont capables de nous apporter aussi leur connaissance et leur expertise et puis de donner aussi, d'insuffler quelque chose comme ça à ce mouvement-là, en fait. Mais effectivement, tu vois, ne serait-ce qu'en en parlant, on se rend bien compte que le paysage de structuration, c'est un paysage qui est très, très vaste. Hein, il couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, de l'extérieur, les gens se disent, ils ont tellement de choses à faire en si peu de temps ou comment, tu vois. Mais en fait, l'organisation du sport en France est vraiment méconnue. Elle est assez peu connue, en fait. On pense que une fédération, c'est juste, on arrive, on prend sa licence, on fait des compètes et puis on rentre à la maison. Mais pour que ça fonctionne, derrière, il y a énormément de rouages. Et puis la majorité des fédérations, comme je te l'ai dit, elles ont un siècle, voire plus. Mm-hmm. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait de la structuration de A à Z. Aujourd'hui, on fait tourner des systèmes existants. Tu vois. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est nouveau. On ne fait pas rentrer une discipline comme ça dans le champ sportif français tous les ans.
Et tu as évoqué le système de grades. Ça a été quoi l'idée derrière ça et comment est-ce que ça va du coup s'organiser, sachant que pour du MMA, c'est vrai que ça, on pourrait se dire que ça peut ne pas être adapté ou quoi que ce soit. Comment est-ce que du coup tu décrirais les choses ?
Ouais, alors Moi, j'étais dans cette position, justement, sur les grades il y a quelques années où je ne voyais pas l'utilité des grades. Enfin, il y a 5 ans, tu m'aurais parlé des grades. C'est pareil, j'ai eu des discussions comme ça avec Bertrand Amoussou, notamment, puisque c'est lui qui a proposé ce système de grades à l'IMAF. Et effectivement, je comprenais pas le truc. Donc, moi, j'étais avec ma casquette entraîneur de la CFMMA. Donc, si tu veux, du coup, je ne voyais pas ça de cette manière-là. Après, maintenant... La particularité qu'on a en France aussi, c'est qu'on a des gens qui sont déjà qualifiés ou formés, enfin, des gens qui sont déjà formés, qui sont déjà des combattants et des athlètes. Mais par contre, on sait qu'on a des disparités techniques. Il va falloir, mine de rien, si on veut organiser des compétitions et que ces compétitions, on n'ait pas d'écart technique trop important, il va falloir qu'on ait une manière de pouvoir évaluer les gens, en fait. Et le seul moyen qu'on a d'évaluer les gens, c'est de pouvoir mettre en place un système comme ça qui inclut une progression technique. Donc les grades, ils ont plusieurs vocations. La première vocation, c'est de pouvoir déterminer techniquement un petit peu ce que les gens savent faire ou pas. Ça ne veut pas dire on ne va pas faire des grades avec une précision millimétrée comme on retrouverait sur du karaté kata. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de dire quelles sont toi les dispositions que tu as sur certaines phases de transition, sur le travail au sol, sur le travail debout, qu'est-ce que tu sais plus ou moins faire en fait. Et en fait, à chaque fois, on a une granularité qui augmente comme ça autour des attendus. L'autre avantage des grades aussi, c'est qu'il permet d'avoir une progression pédagogique qui soit contrôlée et qui soit vraiment cohérente. Donc ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un qui arrive dans ta structure, tu ne vas pas commencer par faire des jugés à la volée, en fait. Non. En fait, on va commencer par ça, puis on va faire des formes de corps, et puis des formes de corps, on va pouvoir faire des liaisons, et puis des liaisons, on va faire nos liaisons, puis l'amener à la lutte, et puis etc. Puis au début, on va faire de la lutte avec au niveau genou, puis niveau hanche, puis niveau épaule, puis, et ainsi de suite. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi, le référentiel technique MMA, de pouvoir le mettre comme ça dans des tiroirs, et de dire bah, qu'effectivement, il faut un niveau de compétence ou un niveau de pratique pour pouvoir enseigner ou proposer telle ou telle technique. Et en fait, le simple fait, c'est que ça, c'est généralement dans nos têtes. On sait très bien en tant qu'entraîneur, on sait très bien. Là, le seul truc, c'est qu'on va partir sur une réflexion. Et en fait, cette réflexion, elle est posée dans un cadre. Et c'est là qu'on peut dire, bah, cette technique, effectivement, par rapport à ce que toi, tu demandes, elle est plus là ou là, et on va pouvoir la disposer. Et en fait, c'est à ça que vont nous servir les grades. À la fois pour évaluer, pour se prémunir aussi de disparités techniques, et puis à la fois pour avoir un référentiel pédagogique progressif qui nous permettra de nous adresser à tous les publics, y compris le public enfant.
Et pour l'existant, entre guillemets, par exemple, on va Taylor Lapillus, qui est un ancien combattant UFC, comment ça va se passer? Lui, directement, il aura le plus haut niveau du grade, pardon, ou il devra passer petit à petit les différents grades?
Alors, il devra repartir depuis le grade blanc et tous les 2 ans passer un grade. Non, pas du tout. On va pas faire ça. Ce serait pas voilà. Non, on va surtout pas faire ça. C'est ce qu'on avait dit dans le webinaire, en fait. On sait qu'on a des gens qui sont déjà techniquement aboutis et formés. Ouais. Enfin, je veux dire, on n'a pas de problème avec ça. Ça va surtout s'adresser aux néo-pratiquants. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu commences le MMA en 2021. Bah là, c'est sûr que tu vas repartir avec une qualification puisque tu pars de zéro. Mais pour les gens qui sont déjà là, en fait, c'est juste sur certaines étapes. Donc, si tu, par exemple, tu prends le cas de Taylor, nous, ce qu'on souhaite mettre, c'est justement, et c'est toujours pareil, c'est des mesures qui sont temporaires. C'est le temps qu'on ait une régulation. Là, on a différents types de publics et différents types de profils. Donc, en fait, il faut juste qu'on arrive à remettre tout le monde, à harmoniser le tout. Donc, si tu prends le cas de Taylor, il faudra que les compétiteurs passent juste une certification, une fois, une certification. Oui. Une certification technique pour dire ok, bah à ce moment-là tu peux aller en pro A et il n'y a pas de souci. Si par contre cette spécification, en fait, on va évaluer les capacités techniques défensives, donc défensives en percussion, en lutte et au sol, ce serait très dangereux de mettre quelqu'un qui, par exemple, est très fort debout et très fort en lutte, mais qui n'a pas du tout de défense au sol, et dire, bah, ça y est, demain, tu peux aller combattre en pro, là, on va avoir un problème. Et je pense que, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est que pour des cas comme Taylor ou des pros qu'on a depuis maintenant un certain nombre d'années, pour eux, c'est une formalité. C'est un truc qui prendra 40 minutes, et en 40 minutes, c'est terminé. Et dans cette certification, il y a une vérification médicale, donc avec un suivi des commotions, vérifier que les gens n'ont pas des commotions. Tu peux très bien te promener avec une commotion sans l'être forcément informé. Donc, après, on a des circonstances aggravantes. Donc, il y a une vérification médicale, une vérification technique, et après, il y a une présentation aussi de ce qu'est l'environnement professionnel. Donc, qu'est-ce que tu as sur un petit peu la gestion de contrat, même le cutting, etc., tout ce qui englobe un petit peu le statut pro. C'est-à-dire que les gens qui embrassent la carrière professionnelle, il faut quand même qu'ils en soient informés. Pendant longtemps, quand tu étais fort à la salle, tu passais pro. Donc, tu faisais des découvertes sur le terrain. On va essayer de minimiser ça au maximum.
Et justement, ouais, la sécurité est au cœur véritablement du projet. On voit en MMA, pourtant, qu'il y a des cas comme Israël et DCA, enfin, énormément, on va dire, de combattants qui débutent directement en pro sans être justement des produits finis et aboutis et qui ont des lacunes ou qui sont, par exemple, beaucoup plus faibles au sol ou debout parce qu'ils sont à chaque fois matchés contre des adversaires favorables. On va dire, c'est généralement au bout du cinquième combat que tu as vraiment du vrai MMA, entre guillemets. Est-ce que ça, avec ce système-là, ça va être beaucoup plus difficile pour les athlètes français, justement, de pouvoir directement se lancer chez les pros sans être abouti?
Bah, c'est ce que je dis sur les vérifications défensives. On n'attend pas de toi que tu aies une défense de ceinture noire de lutte à livrer ou de jiu-jitsu brésilien. C'est pas le but. Le but, c'est que tu aies au moins des postures défensives. Quand je pense à ça, moi, ce qui m'intrigue et ce sur quoi je réclame un petit peu de vigilance, c'est sur, entre guillemets, tu as fait une très très grande ou une très très belle carrière dans une discipline, ouais. Et tu dis, bah, tiens, j'aimerais bien faire du MMA. Et en fait, du jour au lendemain, tu fais du MMA. Donc je sais qu'il y a des athlètes qui sont très consciencieux et qui vont vraiment s'appliquer à se dire, ah ouais, mais il y a du sol. Donc, les types vont se mettre à faire du sol. Hein. Ça s'est vu très, très récemment. Et c'est une excellente démarche. Et c'est parce que ce sont aussi des professionnels. Mais je ne peux pas certifier que tout le monde aura cette démarche-là. Donc, moi, c'est juste ça. Comme on aura un effet de mode un peu sur le MMA, les premières compétitions, qu'il y aura une facilité de se dire bah, « Pourquoi pas, j'ai envie de me tester ?» Et qu'on arrive sur des choses qui soient vraiment avec des écarts trop importants. C'est vraiment ça qu'il faut surveiller, en fait.
Donc finalement, il y aura juste en fait à passer cette certification-là pour ensuite se lancer chez les pros. Voilà, ouais, d'accord, c'est ça.
Ça fait, oui.
Du coup, simplement, si je comprends, pour ce qui est des ceintures, est-ce qu'il faut la ceinture noire dans le système auquel vous réfléchissez pour être professionnel et pouvoir combattre en professionnel?
Ce sera, là pour l'instant, ce qu'il faudra, c'est que les pros aient un niveau de ceinture noire. Il faut que je lise le niveau, on va pas faire un repassage de grade sur tous les pros. Mais après, faut voir le système de ceinture comme abouti, surtout pour les néo-pratiquants. Ça va moins concerner les gens qui sont déjà en exercice ou formés. Enfin, je veux dire, je ne vais pas reprendre des compétiteurs d'expérience pour lui dire bon, on repart, tu me fais une forme de corps, tu fais des. Je pense que ça va durer 5 minutes cette histoire. Donc en fait, non, c'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte les publics qu'on a actuellement, qu'il va falloir ordonner, et puis pour qu'on puisse avoir une continuité, comme je l'ai dit, qui soit en rapport avec ce qu'attend aussi le mouvement sportif français. Et puis en même temps, il faut qu'on prenne en charge aussi tous les publics qui vont arriver. Donc en fait, et pour ça, on n'a qu'un seul temps. On a un temps avec deux publics et des attentes différentes.
Mais par exemple, du coup, pour un gars, parce que si ça s'adresse aux néo-pratiquants, pour un gars comme Ngannou, par exemple, qui là, il va probablement, on croise les doigts, combattre pour le titre dans l'année qui arrive, et il reste un peu comme un crocop à l'époque, mais au sol, par exemple, il a bon, clairement, ce n'est pas le meilleur au sol. En lutte, il est extrêmement athlétique, ce n'est pas le meilleur non plus. Si un gars comme Ngannou venait aujourd'hui à commencer le MMA, bon, il y a des chances qu'il éclate tout le monde de toute façon. Mais comment est-ce que ça se passe au niveau de la progression en grade, sachant que ses facultés athlétiques et son style font qu'il bat tout le monde, et pourtant, il n'aura probablement pas les compétences pour passer les différentes ceintures? Comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là?
Alors, pour dire ça, il faudrait qu'on connaisse les compétences qui sont rattachées aux différentes ceintures, jeune homme. Et en fait, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Donc aujourd'hui, tout le monde fustige le système de grade, mais sans jamais avoir lu le contenu. Donc ça, c'est propre aussi à notre tempérament. Donc c'est rigolo. Mais en fait, non. Typiquement, à partir du moment, ce qui est attendu sur la validation, c'est un minimum de lutte et un minimum de sol. Je le redis, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir un transfuge d'une discipline en particulier. Qui par exemple, un transfuge de la lutte, qui se dit bah, j'ai fait de la lutte à haut niveau, je suis en fin de carrière, et je me dis bah, tiens, je vais aller sur des compétitions de MMA parce que désormais c'est possible, et désormais c'est à côté de chez moi, et désormais je peux gagner un peu d'argent avec ça. Et tu te retrouves comme ça dans une enceinte fermée et tu n'as pas du tout de percussion. Donc là, on a un problème. Donc, comme tu l'as dit, je pense que Francis, il a quand même une lutte et il a quand même un sol pour ne pas se retrouver en danger. Tout du moins quand il est dans la cage. Après, c'est une perception, c'est ce que j'ai dit, on n'attend pas une qualité technique, on n'attend pas une maîtrise noire de lutte pour un professionnel. On est conscient de la particularité du MMA, on sait aussi que c'est un sport à haute incertitude, donc en fait, tout est possible, tu peux être le meilleur au sol, mais si en fait tu prends une percussion, bah, le combat s'arrête, et ainsi de suite. Donc on est conscient du caractère de l'activité. Cependant, faut voir les choses aussi de cette manière-là. Il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas demain l'organisation de compétition avec des gens qui ont fait 2-3 combats en Belgique ou autour de la France et qui disent « moi, je suis professionnel ». Et à ce moment-là, effectivement, je les mets dans la même cage qu'un Taylor Lapillus ou qu'un Salah. Et là, on va voir ce qui va se passer et ça va être terrible. Mais pas pour les deux personnes citées. Et en fait, c'est surtout ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est vraiment pour trier et pour dire attention, peut-être que la qualification technique, elle est pas au rendez-vous. Mais c'est pas quelque chose de restrictif ou qui cherche à vouloir mettre systématiquement des cases partout.
Et j'avais deux questions par rapport à ça, Lionel. Justement, le niveau de grade ceinture, c'est très bien pour la France parce que justement, on va dire, les gens vont pouvoir se dire bon, bah, tel niveau correspond à ça. Est-ce qu'il y a des discussions justement avec l'IMAF pour faire en sorte que ça devienne universel? Parce qu'on sait que par exemple en Muay Thai, il y a des ceintures noires de Muay Thai, mais ça veut tout et rien dire, on va dire.
Ouais, les Pradjet. Ouais.
Alors que là, si par exemple tout le monde se met à avoir les grades, c'est vrai que quelqu'un qui va aux États-Unis comme en France, comme ailleurs, directement, les gens se diront, effectivement, on peut les matcher l'un contre l'autre, et puis bah, tu as une idée, tout simplement. Est-ce que vous en avez discuté avec l'IMAF de ça?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que là, l'IMAF a publié la semaine dernière un référentiel qui dit que pour participer à certaines aux compétitions IMAF, désormais, il faudra un grade. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a un grade attendu. Donc, ça veut dire que de toute manière, pour les gens qui voudront s'inscrire sur un cursus IMAF, il faudra l'utiliser. Après, moi, ce qui m'intrigue, c'est quand je lis, ouais, mais tu vas être ceinture noire de MMA comme McGregor. Donc, en fait, non, c'est toujours pas ça l'idée. Donc, ça, c'est pareil, il faut arrêter. Après, il faut être vigilant sur quelque chose. C'est-à-dire que la pratique compétitive, ça représente 10%. C'est 10% de la pratique sportive dans la majorité des sports. Et nous, comme on est sport de contact et qu'on est, y a quand même pas mal de contacts, je pense qu'on peut même être un peu moins de 10%. Ouais. La pratique compétitive à très haut niveau, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, c'est pareil, je pense qu'on a assez peu de Français, je vous laisse faire le compte en fait, mais qui sont vraiment dans des grosses organisations. Ouais. Donc là, en fait, il ne faudrait pas non plus qu'on soit en train de se poser des questions et de réfléchir sur un système qui va concerner, ça se trouve, que 5% de l'ensemble de nos pratiquants. Quand je vous dis que, quand je parle moi du MMA dans sa vision globale et dans sa globalité, c'est-à-dire que moi, j'ai aussi une réflexion par rapport sur le sport scolaire. J'ai une réflexion sur ce qu'on peut apporter aussi en termes de développement, ce qu'on peut proposer dans l'accueil collectif des mineurs, etc. Et en fait, le but, c'est ça. Le but, c'est d'amener un maximum de gens à la pratique. Plus on ramènera de gens à la pratique, plus on pourra constituer une base de compétiteurs intéressante. Plus on aura une base intéressante, plus on aura des talents qui vont se révéler. Plus on aura de talents, plus on aura de gens qui feront du haut niveau. Donc en fait, le nivellement de l'activité, il se fait toujours par en fait, la partie non compétitive qui va se mettre à faire de la compétition pour exceller sur une élite. Et le MMA, c'est une pyramide inversée où en fait, on a structuré la discipline à partir de la forme compétitive. C'est-à-dire que le MMA, il s'est structuré comme ça. On a mis des gens dans une enceinte fermée, on a regardé ce qui se passait, on en a fait une discipline et maintenant on se dit bah, peut-être qu'on peut l'enseigner. Et en fait, c'est la spécificité du MMA, c'est une pyramide inversée. Ça n'existe pas, ça n'existe dans aucun autre sport en fait. Donc en fait, on a vu l'activité et on s'est dit comment on pourrait faire. Et puis là, il ne faut pas qu'on ait la même réflexion à se dire, eh ben, on regarde que la pointe en fait, et on se dit bah, comment on va faire pour que cette pointe elle ait des grades ou que... c'est la réflexion, elle est pas orientée dans ce sens-là, elle est dans vraiment l'encadrement et puis le développement de la pratique.
Après, c'est vrai que, comme tu lis, il y aura évidemment beaucoup plus d'amateurs, on le voit d'ailleurs chaque fois qu'on va dans les clubs de MMA, mais c'est vrai que même Roxana Maracineanu, donc la ministre des Sports, avait dit que ça allait être un bon tremplin de reconversion pour les athlètes, parce qu'on sait qu'on est bon en lutte, bon en judo en France, et c'est vrai que pour ça, est-ce que vous avez prévu aussi un parcours un petit peu spécial pour ces athlètes-là, les Olympiens, entre guillemets, qui décident justement de faire la passerelle vers le MMA?
Bah justement, c'est suite à cette déclaration, si tu veux, que je me dis il faut aussi éviter les mauvaises perceptions. Si on regarde des sites un petit peu ou des parutions comme Fightnomics, c'est tout à fait visible. On voit l'évolution du MMA en 10 ans, en fait. Et on voit que, notamment, on était sur 7 percussions à la minute il y a 10 ans et qu'on est passé sur... On avait 7 percussions avec, sur les 7 percussions, 5 percussions qui touchaient. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 percussions à la minute avec 7 percussions qui touchent. C'est-à-dire qu'on a plus de 70% de réussite sur la majorité des combats. Et ça, c'est moyenné sur 10 ans. Donc, ça veut dire qu'auparavant, on pouvait peut-être penser que les MMA, c'était comme ça, des sports. Et puis, tu sais, c'était des trucs mis bout à bout. Et que tout ça, mis bout à bout, ça faisait du MMA. Aujourd'hui, on le sait très bien, le MMA, c'est plus ça du tout. On a des gens qui, justement, excellent en MMA sans jamais avoir fait avoir pris un cours de pied-point, strictement pied-point. Ça, on le voit, on a des gens qui arrivent. Et, parce qu'en fait, c'est une hybridation de tous ces éléments-là, bah, les notions de distance, de déplacement sont complètement différentes, les trajectoires ne sont pas du tout les mêmes, et puis on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus adaptatif. Donc en fait, il faut faire attention à cette idée de se dire bah, « j'ai fait du haut niveau dans une discipline, donc je peux forcément exceller en MMA ». Ça sera un petit peu plus compliqué que ça.
Et est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu plus du protocole par rapport aux commotions ? J'ai entendu différentes choses, notamment 3 KO d'affilée sur… enfin, s'il y a eu plus de 3 KO de défaite, je vais y arriver, par KO sur les, je crois, 5 derniers combats. Enfin, je ne sais pas exactement, est-ce que tu peux nous redécrire ce protocole-là ?
Là, le protocole, on va l'affiner, mais il correspondra à ce qu'on retrouve aujourd'hui en boxe. Donc, en fait, ça sera le même protocole de suivi des commotions que celui qu'on a en boxe. Donc, effectivement, comme tu l'as stipulé, en fonction du nombre de défaites consécutives par KO, tu as un suivi qui est différent et puis tu as une période de reprise qui est modifiée. De même qu'à la fin de ton premier KO, tu as un délai à respecter avant de pouvoir recombattre. La direction des sports travaille sur ce qu'on appelle le P2SC, qui est le portail de suivi des commotions, et c'est un portail interfédéral. Ça veut dire que toutes les fédérations vont pouvoir renseigner et dire que cet athlète, le délégué officiel de la compétition, dira que cet athlète a pris un KO sur cette compétition-là. Ça veut dire que si l'athlète venait à vouloir s'inscrire sur une autre compétition, eh ben en fait, il y aurait un marqueur qui dirait bah, « Attention, ton délai, il te reste encore 15 jours de récupération, 15 jours de repos, tu ne peux pas forcément aller sur cette compétition-là. » Donc ça veut dire que nous, on va s'intercaler aussi sur ce protocole de suivi des commotions, de sorte à avoir quelque chose d'assez fin, et on est sur quelque chose qui correspond aux standards de sécurité de la boxe. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi créé un groupe, donc c'est un groupe de réflexion qui est un petit peu à part et isolé, parce que sa tâche, ce sera ça, qui va travailler sur le suivi, et notamment la prévention, le suivi et le traitement des commotions. Donc pour ça, on a le professeur Sherman qui travaille déjà avec l'UFC. On a aussi Louis Solal Gibouin, qui est un docteur en neurosciences à l'université de Constance en Allemagne. On a un des kinés des équipes de France de boxe. On a Rémi Lancou, qui est lui aussi kiné et qui est spécialisé comme ça sur le MMA et la traumatologie associée. On a Marie-Annick Machard, qui est médecin à la Fédération française aussi. Puis on a le docteur Savini, qui est médecin du sport dans le rugby. Donc en fait, le rugby ayant aussi un protocole commotion, et d'ailleurs c'est un des seuls protocoles disponibles, il y a une application là sur l'App Store. Donc en fait, eux, ils ont déjà tout un travail et une considération médicale et scientifique autour des commotions. Donc en fait, on s'est entouré d'un groupe médical spécialement dédié à cette question-là, en fait.
D'accord. Parce que oui, la sécurité des athlètes et la santé des athlètes est la priorité. Pour ceux qui souhaitent organiser justement des combats, est-ce qu'il va falloir qu'il y ait ça à chaque fois, qu'il y ait tel nombre, on va dire, de, je sais pas, d'ambulanciers qui soient présents, faire en sorte que même pour les athlètes à l'étranger, enfin les athlètes étrangers qui viennent en France, ils aient, je sais pas, un passeport, parce qu'il y avait ce justement passeport santé qui avait été présenté lors des assises du MMA. Est-ce qu'ils auront aussi besoin, eux, d'avoir un passeport santé ? Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'avoir, je sais pas moi, une licence temporaire quand ils viendront en France ? Comment est-ce que ça va se passer exactement ?
Exactement comme à la boxe, qui a vraiment l'habitude d'organiser comme ça des compétitions avec notamment des combattants étrangers. Donc, il faudra une licence temporaire, genre pour le temps de la compétition. Il n'y aura pas de dispositif médical outre celui qui est déjà prévu dans les textes et dans le code de sport pour l'encadrement d'une compétition. Donc, en fait, on n'alourdit pas le système. On réutilise un système qui est déjà très efficace et très opérant en boxe. Et en fait, on le reproduit avec une vigilance. On a une réflexion aussi autour d'un protocole qui s'appelle le Safe MMA, donc qui existe chez les anglo-saxons, donc en Angleterre et en Irlande. Et le Safe MMA, en fait, lui, il a été mis en place, il y a eu un accident dramatique il y a quelques années en Irlande, qui avait entraîné le décès d'un combattant suite justement à une commotion. Et donc, effectivement, l'Irlande est devenue beaucoup plus restrictive. Donc, elle a posé des choses supplémentaires. Et par exemple, des compétitions comme le Bellator prennent tout à fait ça en considération. Ça veut dire que si le Bellator, il arrive, quand ils sont aux États-Unis, ils suivent le protocole national. Si, par exemple, ils doivent aller en Irlande, ils vont suivre le protocole Bellator plus le protocole Safe MMA à l'intérieur. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc après, c'est vrai que c'est toujours pareil. On se dit, ouais, ça alourdit. Faut savoir que le Safe MMA, en fait, il est mis en place. Si jamais tu fais une commotion plutôt sévère, ils ont quand même la possibilité de te mettre dans un coma artificiel pour limiter justement la dégradation cérébrale et pouvoir te transporter en sécurité dans un établissement qui sera à même de pouvoir faire la prise en charge, etc. Enfin, il y a une vraie prise en charge très très importante. Donc en fait, ça ne peut être que bénéfique. Pour la compétition et pour les combattants, en fait. C'est transparent pour eux et ça peut être que bénéfique. Après, comme on le dit, le but, c'est pas d'alourdir. On a un protocole qui, là, répond déjà à des normes de sécurité très strictes et qui est très efficace. Maintenant, si on peut l'améliorer, si ça s'avère utile, on le fera sans hésiter. Bien sûr que ça porte préjudice aux organisateurs.
Après, bien sûr, enfin, la santé des athlètes, c'est quand même hyper important. Tu as brièvement parlé du weight cutting. Est-ce que pour toi, nous, on sait que c'est dramatique pour beaucoup, le fait d'être obligé à chaque fois de combattre 10 voire 15 kilos en dessous de son poids de forme. Est-ce que vous avez prévu quelque chose par rapport à ça? Ou par exemple, le niveau amateur, comme on va dire IMAF, on sait aujourd'hui que justement, il y a les pesées qui sont quasi quotidiennes au moment des compétitions, donc ils ne peuvent pas faire le yo-yo. Est-ce que même pour le niveau professionnel, le but, c'est d'éradiquer un peu cette pratique-là?
Là, c'est pareil, ça. En fait, la fédération, la manière dont on travaille, là, c'est qu'on fait de la consultation. C'est pour ça qu'on a créé les ateliers. C'est-à-dire que les gens ont déposé une candidature, ils sont répartis par région. Et en fait, on envoie comme ça à toutes les régions des documents pour recueillir aussi des informations par rapport à ça. On a identifié des gens qui sont dans les ateliers rattachés à la fonction médicale. Et ça fait partie des questions qui vont leur être proposées la semaine prochaine. Donc, en fait, quelle est leur perception sur le cutting? On va faire la même chose au niveau des entraîneurs. Et puis, nous, on a notre position, mais on va aussi recueillir les propositions de terrain. Et puis, on va comme ça élaborer quelque chose par rapport à ça. La spécificité de l'IMAF, c'est qu'effectivement, comme tu es en mode tournoi, tu es forcément t'es pesé tous les matins avec une tolérance de quelques pourcents qui augmente jour après jour. Donc, eux, c'est cette spécificité-là qui fait qu'effectivement, pour aller sur une compétition IMAF, vaut mieux que tu sois très, très proche de ton poids de combat parce que tu ne pourras pas te permettre de faire le yo-yo. Ouais.
Et pour tout ce qui est lié au dopage, là aussi, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Parce qu'en MMA, on sait que là aussi, ça peut de temps en temps être le Far West. Est-ce que ça va être cadré, toute cette question-là aussi?
Bien sûr, en fait, c'est toujours pareil. C'est cadré par la FLD.
FLD, oui.
Voilà, on a un cadre réglementaire, donc l'Agence française de lutte contre le dopage. Et la FLD, en fait, elle est toute puissante. C'est-à-dire que même, peu importe ce que nous, on propose, de toute manière, la FLD a ses propres protocoles, etc. Donc, en fait, nous, on est tout à fait en adéquation avec la politique et les mesures prises par la FLD. On était en réunion avec eux la semaine dernière. Ils ont déjà des sensibilités par rapport au MMA, puisqu'ils ont eu l'opportunité de pouvoir aller tester des athlètes dans certaines structures sur Paris. Donc, ils connaissent très bien l'activité. Ils sont tout à fait ouverts et favorables à l'échange avec nous. Il n'y a pas du tout d'a priori ni de rétention. Maintenant, nous, ce qu'on va proposer, c'est dans les cursus de formation, un dispositif qui sera gratuit, juste pour informer. C'est-à-dire que en parlant avec eux, ils nous ont dit qu'en fait, parfois les gens avaient des pratiques, mais ils avaient des pratiques qui étaient dopantes ou néfastes, mais par méconnaissance en fait, par manque d'information. Donc, si les gens n'ont pas l'opportunité ou la volonté de venir sur un cursus de formation, ben, on se propose nous de quand même mettre à disposition toutes les informations relatives au dopage à titre informatif. Pour que quand même l'information circule et qu'on évite les dérives et les choses comme ça.
Et toi, Lionel, là, en tant que, on sort un petit peu du cadre justement à la FF Box pour le MMA. Pas du tout. Dans le MMA, qu'est-ce que tu aimerais, on va dire, dans le meilleur des mondes, globalement, au niveau professionnel, même amateur, tu aimerais qu'il se passe quoi, qu'il se développe quoi, quand tu vois, tu te dis, tu aimerais bien qu'il y ait une généralisation de telle ou telle pratique? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe là dans les années à venir sur le sport?
Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, on ait un processus de sélection et de détection qui soit comme sur la majorité des sports, et d'autant plus sur les sports avec des finalités et des perspectives de haut niveau. Donc j'aimerais bien qu'on ait une masse de pratiquants jeunes, parce qu'on est des sports à maturité tardive, c'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent assez tard sur la pratique. On se dit pas, on n'a pas des gens qui viennent faire du MMA, on n'a pas d'enfants de 8 ans qui disent, et on n'a pas de parents qui disent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On va les mettre pour faire du MMA, donc j'aimerais qu'on ait une modification de la perception de l'activité, qu'on puisse avoir comme ça beaucoup d'enfants auxquels on puisse faire au départ de la motricité, de la latéralisation, ce qui leur permet d'avoir d'acquérir comme ça des habiletés, qui va permettre d'être transféré sur des formes de corps et autres, de sorte à ce qu'on ait une jolie base comme ça amateur, et que de cette base amateur, on puisse proposer des professionnels qui soient avec le niveau, un niveau d'excellence et dans un cadre, dans le cadre qui mérite, quoi. C'est-à-dire que là, on a la chance d'être avec une fédération olympique. Toutes les fédérations ne sont pas des fédérations olympiques, donc on a tout un dispositif aussi et une expertise par rapport à ça. L'intérêt, ce serait vraiment, durant toute la période qu'on a là, de rebasculer cette expertise de fédération olympique sur cette jeune entité, de sorte à ce qu'elle puisse en tirer le meilleur quand elle sera indépendante, en fait.
Et est-ce que tu penses que ce sera possible pour les Français, finalement, de ne plus avoir à s'exporter, finalement ? Et que, à part l'UFC, qui est bien évidemment la plus grosse organisation au monde, et que, comme la NBA, je pense qu'il n'y aura jamais personne qui arrivera à la rattraper, mais ils puissent se dire, on reste en France, on combat en France, et finalement, soit ils partent, ils font une superbe carrière IMAF, ou alors chez les pros, mais ils restent en France.
Ah, ce serait vraiment du top, quoi. Le but, c'est de toute manière, on a plus de qualifications et qu'on touche plus de public, on aura forcément un niveau qui va augmenter. On va aussi augmenter la qualification des entraîneurs. Là, on travaille sur les diplômes avec la création d'un cursus diplômes fédéraux et ensuite BP, DE, DES. Donc, même si ça ne veut pas dire que ça va être mis en place tout de suite, mais en tout cas, c'est déjà évoqué. Donc, ça veut dire qu'on aura une qualification supplémentaire qui sera assimilable à ce qu'on retrouve sur d'autres sports de haut niveau. Donc, si le niveau national augmente, oui, ce sera le but, c'est ça, c'est que les combattants français ne soient pas lésés, qu'on n'ait pas de disparité ou de différence de niveau, qu'on ne soit pas obligé de s'exporter et de faire des sacrifices énormes pour pouvoir vivre sa passion, si le MMA est sa passion, quoi.
Et financièrement, est-ce que tu penses aussi que ça pourrait finalement avoir une petite révolution, dans le sens où là, mondialement, grosso modo, mais même on sait que c'est très difficile quand on débute, et puis même quand on arrive à l'UFC, les athlètes ne sont pas énormément payés, mais est-ce que tu penses qu'avec le processus que vous êtes, enfin tous les process que vous êtes en train de mettre en place, en France, il pourrait y avoir une exception culturelle française côté MMA de ce point de vue-là ?
Je pense que la valorisation des combattants français, elle proviendra aussi de toutes nos filières de détection, les filières d'entraînement, en fait. Et on sera plus, comme il y a encore quelques années, appelé pour boucher des fight cards et appelé comme ça au pied levé. Et ça, en fait, faut bien se dire que tout ce qui est fait là, hein, ça a l'air de rien, mais même une réflexion sur les grades, en fait, elle peut permettre à ce que dans 10 ans, finalement, tu sois mieux payé et que tu sois pas appelé au pied levé. Parce qu'en fait, il s'est passé énormément de choses entre le début et la fin, et que tout ça, c'est le fruit d'une mutation qui est assez lente. Donc oui, ça sera de toute manière profitable pour les professionnels français. Plus on aura une filière qui visera vers l'excellence, le haut niveau et la haute performance, et plus ils seront valorisés sur la scène internationale, on le sait. C'est ce qu'on voit, par exemple, tu vois, avec le football, par exemple. Ouais. Je veux dire, les joueurs français, ils n'ont pas à rougir, ils s'exportent très très bien, mais c'est des filières qui sont très très fines. Et si déjà là, on considère que c'est coupé et segmenté, je vous invite à regarder ce que fait la fédération de football. Et là, vous allez voir qu'ils ont encore plus coupé les cheveux en quatre. Si on regarde ce que fait la fédération de hand, enfin, je veux dire, le système de détection en hand, c'est une énorme machine nationale, mais qui est très très précise, qui est très précise. Ça veut dire que si t'es pas dans ce cadre-là, par contre, ça y est, tu rates le coche. Mais après, ils ont un niveau d'excellence qui est reconnu mondialement. Enfin, on ne devient pas non plus multiple champion du monde et multiple champion olympique comme ça. Les joueurs français s'exportent très bien, notamment en Allemagne, etc. Donc, nous, le but, c'est pas d'arriver demain à ça. C'est pas le but. Mais c'est quand même d'initier une démarche qui nous amènera à avoir nous aussi un système qui puisse nous amener comme ça sur de la performance, voire de la haute performance. C'est le but.
Et tu dis, le but, c'est d'arriver là. Tu vois à peu près, on va dire temporellement. Quand tout sera parfait, à quel moment ?
En fait, moi, j'ai mon idée. C'est-à-dire que mon but, c'est qu'on soit, c'est qu'il y ait énormément de choses qui soient, enfin, que ce soit le jour et la nuit, déjà, dans 4 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura un appel à la fin de l'année là, pour savoir si la fédération de boxe conserve la délégation. Maintenant, on sait qu'à l'issue d'une période de délégation, c'est-à-dire 4 ans, la fédération de boxe avait envisagé le fait que la fédération de MMA soit, que la discipline de MMA soit indépendante et qu'elle ait sa propre fédération. Ce serait vraiment souhaitable qu'à cette période-là, toutes ces choses-là soient déjà mises en place, bien entendu, et qu'on commence déjà à en tirer les premiers bénéfices. Ça, c'est le but. Après, comme je le dis, on est vraiment, vraiment, vraiment tributaire de l'adhésion. C'est-à-dire que plus il y a d'adhésion, plus ça va vite. Si par contre, on n'a pas forcément d'adhésion, si les gens tardent à venir ou si vraiment on focalise vraiment sur des points, tu vois, je sais que les grades, ça cristallise beaucoup, tu vois, mais comme je te dis, ça cristallise essentiellement les gens issus de la compétition ou actuellement compétiteurs, mais ils sont pas. Ils sont tellement peu nombreux qu'en fait, on sait très bien comment ça va se passer. C'est pas une conduite générale, en fait. Donc, plus on aura d'adhésion par rapport à ça, plus on aura d'échanges aussi. Parce qu'en fait, avec de l'échange, c'est quelque chose qui est correctif. Donc, plus on aura d'adhésion, d'échanges, plus on ira vite, hein, là-dessus.
Et tu dis justement, l'adhésion a été le plus gros challenge pour toi. Et c'est quoi? C'est parce qu'il y a la casquette Fédération Boxe. Alors que quand même, Lionel Brézéfin, quand il se présente, on sait tout ce que tu as fait en MMA, on sait pour qui tu as travaillé. Normalement, les gens pourraient avoir confiance et se dire « bah finalement, ce qu'il veut, c'est le bien pour le sport ».
Alors non, parce que moi, je suis une cacahuète. Donc en fait, non, je suis pas, les gens ne me connaissent pas, en fait, et très peu de gens savaient le dossier, que j'avais collaboré sur le dossier. Donc, ce qui fait que je me retrouvais dans des conversations où les gens avaient des propos assez rigolos à l'encontre de la fédération française de boxe, tu vois, en disant bah, « mais ils y connaissent rien », etc. Je dis « bah si, quand même, c'est un peu ce qu'on fait sur le dossier et tout ». Donc non, et encore, je parle encore là avec des entraîneurs ou avec des amis qui ne savent pas que j'étais forcément sur le dossier. Donc c'est vrai que ça a été mal perçu parce que l'AMI, c'est la même chose. Enfin, il y a un déficit de communication. Personne ne sait ce qu'est l'AMI, en fait. Tout le monde dira il y a eu un AMI, mais en fait, personne ne sait. L'AMI, c'est un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, c'est qu'est-ce que vous prévoyez pour le suivi socio-professionnel et sportif? Qu'est-ce que vous prévoyez sur la sécurité? Qu'est-ce que vous prévoyez sur les filières de sélection, sur les filières diplômantes, etc. Donc en fait, tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qui a déjà été écrit dans l'AMI. C'est-à-dire que c'est une réflexion qui n'a pas commencé le 31 janvier, c'est une réflexion qui a été initiée l'année dernière et que là, on a l'opportunité de pouvoir mettre en œuvre. Et en fait, le ministère, par rapport à cette réflexion, lui, il nous accorde sa confiance et il dit, bon, bah, apparemment, le projet que vous voulez mener, c'est celui-ci. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà les organes et les services de l'État sont de notre côté. C'est que la fédération de boxe, même en interne, on a quand même 70% d'adhésion dans le comité directeur. Parce que les gens de la boxe auraient pu dire, écoutez, nous on a mieux à faire, c'est pas notre truc, on le met de côté. Mais mine de rien, on a quand même une majorité de gens qui sont bienveillants vis-à-vis du MMA. Maintenant, c'est plus des acteurs du MMA, en fait. Il faudrait qu'on ait encore plus d'adhésion par rapport à ça, en fait. Et j'espère qu'on y arrivera, je le souhaite.
Et d'ailleurs, ce sont quoi vos principaux freins là où vous en êtes en ce moment? C'est temporellement, évidemment, parce qu'il y a un certain cahier des charges dans un certain temps à respecter. Est-ce que c'est d'autres fédérations qui essaient de... Quels sont les principaux freins que vous avez là pour l'instant et qui vous empêchent de faire ce que vous voudriez faire et aussi bien que vous voudriez le faire?
Eh ben, en fait, pour l'instant, on fait exactement ce qu'on veut faire et comme on souhaite le faire. On n'a pas de frein particulier. C'est-à-dire que, si tu veux, le temps fédéral, c'est un temps qui est assez long. C'est-à-dire qu'effectivement, on est accompagné par l'Agence nationale du sport sur ce projet, parce que c'est un projet qui a un coût quand même. Il faut savoir que la Fédération de boxe ne mettra pas de fonds propres dans le MMA, au même titre que le MMA ne mettra pas de fonds propres dans la fédération de boxe. Ce sont deux entités qui sont totalement distinctes. Il y a une étanchéité entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on avait aussi spécifié dans l'AMI. Donc en fait, on peut se dire « Ah ouais, le MMA, ça va faire énormément d'argent. Donc en fait, la boxe, ça va en profiter. » En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, la boxe n'a pas prévu d'en profiter. Et à ce titre, la boxe n'a pas prévu non plus d'injecter des fonds dans le MMA. Donc en fait, ça va dans les deux sens. Ce qui fait que il faut qu'on ait une participation aussi, un accompagnement de l'État. Et en fait, si tu veux, cette attribution de budget, bah, là, ça vient d'être débloqué. Donc, on va pouvoir aller sur les prochains points d'étape. Par contre, tout ce qui est, par exemple, le logiciel qui va servir aux formations, bah, ça, c'est prêt. Tout ce qui est sur le dispositif de formation, c'est en cours avec la direction des sports. Enfin, toutes les communications sont ouvertes. On est aussi en relation avec un membre, un des bureaux de la direction des sports pour justement le suivi des pros et comment on pourrait faire pour trouver le truc le plus intelligent et le plus adapté à la situation actuelle au MMA et puis à la disposition française. Donc on n'a pas de frein, si tu veux. Après, ce que font les autres fédérations, à savoir le fait de dire qu'ils vont proposer à la rentrée du MMA, etc., etc., on va arriver, si les gens suivent ce type de chemin, enfin, si jamais les gens se disent « je préfère aller là parce que c'est une fédération qui me rassure » ou « moi, je suis issu de cette fédération », etc. Si on a effectivement des énergies qui partent comme ça à droite à gauche, forcément, ce qu'on disait à propos de l'adhésion, on aura une perte d'adhésion. Donc, ça veut dire que ce qu'on va faire, on le fera sur une échelle plus restreinte. Donc, en fait, si au départ, c'est restreint, au bout, ce sera forcément restreint. Donc, il faut qu'on ait un effet d'amplification. Il faudrait que les gens aient confiance dans la FFB et dans ce qu'on est en train de proposer pour oser nous suivre, quoi.
Mais c'est bien encadré. Il y a un véritable effort de communication. Si tout se passe bien, en septembre, comment ça se passe justement ? Moi, je veux aller m'inscrire, par exemple, au MMA Factory pour commencer le MMA. Je devrais avoir ma licence et les professeurs qui enseigneront devront avoir passé les diplômes, c'est ça, dès septembre.
Alors, on est conscient, comme on le disait, que le présentiel, ça va être plus compliqué. Donc là, on n'a pas plus d'informations sur le sanitaire et le déconfinement. Donc nous, on va s'efforcer de transmettre tout le contenu théorique, ce qui fait que les gens pourront valider les contenus théoriques des premiers degrés et second degré. Et en fait, on est en train aussi, comme on a lancé justement un appel là et que les gens sont en train de rédiger des contenus pédagogiques, de notre côté, on récupère ces contenus, on les améliore ou pas, on les modifie ou pas, de sorte à pouvoir aussi créer une base pédagogique. Donc ça veut dire qu'on est j'espère déjà pouvoir proposer des contenus théoriques et des contenus pédagogiques d'ici à septembre pour que les gens soient déjà entre guillemets formés. La seule chose qu'on n'aura pas faite ou qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire, c'est l'évaluation en présentiel. Mais faudra pas que ça pénalise, si tu veux, le début de la saison. On sait que la reprise sportive, surtout là cette année, elle est très particulière, elle est très délicate. Donc le but, c'est pas de pénaliser les clubs, c'est pas de pénaliser les entraînements, les entraîneurs, c'est pas de ralentir le système, mais c'est de s'adapter à la situation et leur permettre de pouvoir relancer leur activité en toute sécurité dans le cadre le plus propice possible, quoi.
Et l'adhésion est vraiment hyper importante. Est-ce que les athlètes français seront, entre guillemets, dans l'obligation justement d'adhérer au projet pour pouvoir faire de la compétition ?
Non, on n'est pas des... On n'est pas des... On n'est pas une secte.
Non,
en fait,
non, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait quand même un peu bizarre, je ne sais pas moi, un combattant français qui est, je ne sais pas moi, à l'UFC ou au Bellator, qui fasse pas partie justement de la fédération.
Ah, en fait, on invite tout le monde à rejoindre le mouvement. Après, il faut savoir que sur les compétitions de MMA, sur la délégation, ça veut dire qu'en fait, on est habilité à organiser des compétitions de MMA. Ouais. On est organisé à utiliser le terme MMA, on est habilité à faire du MMA et délivrer les titres de champion de France, etc. C'est ça aussi le principe de délégation. Il faut savoir aussi qu'une fédération, une organisation, quand elle vient, elle demande un agrément à la fédération délégataire. Donc en fait, la fédération délégataire, c'est la fédération de boxe. Donc l'UFC, quand il vient en France, il est en relation, tout comme le Bellator, le Brave ou le One, ils seront en relation avec nous et ils auront une autorisation de manifestation. Donc au même titre qu'un combattant étranger devra prendre une licence étrangère, en fait un combattant qui combattra en France prendra une licence FFB. Mais moi, mon but, c'est pas qu'il prenne une licence FFB, enfin je veux dire, c'est tu vois ce que je veux dire, c'est plus
oui.
C'est d'adhérer au concept, que ça lui convienne et que ça soit adapté, quoi. C'est ça l'intérêt.
Mais j'imagine que tu
parce
dis
que quoi
aussi,
qu'il en soit, il devra prendre une licence.
Non, mais à mon avis, je pense que tu as aussi cette envie un petit peu de performance et de te dire aujourd'hui les athlètes français quasiment sans rien, enfin quand je dis pas d'accompagnement, ils arrivent à faire des véritables prouesses. Mais là, aujourd'hui, maintenant que le sport va être reconnu, je pense que toi aussi, tu te dis d'un point de vue performance, tu vas pouvoir faire des synergies qui sont assez dingues.
Ouais, c'est ce que je te dis quand je te dis, on va augmenter notre base amateur, on pourra évoluer dans un environnement amateur qui est sécurisé, qui va nous permettre d'avancer chacun à sa vitesse et de prendre en qualification. On va pouvoir s'adresser très tôt à un public jeune qui est en construction et qui va pouvoir développer ses habiletés. On va pouvoir exploiter tout ça très finement. Donc oui, je pense que, comme tu le dis, on va, avec un cadre favorable, on aura encore plus de résultats, c'est sûr.
Et comment est-ce que, du coup, tu disais que les organisations comme l'UFC ou le Bellator ou n'importe laquelle, elle devra voir avec vous comment s'organiser lorsqu'elle vient sur le territoire français. Mais alors là, par contre, ça ne doit vraiment pas être évident pour vous. Mais comment est-ce que vous allez faire des arbitrages, par exemple, que ce soit pour la question soit du dopage, des pesées ou quoi que ce soit, pour ne pas, enfin, pour permettre à toutes les organisations de venir sur le territoire français sans leur mettre de frein, parce qu'on a aussi besoin qu'elles viennent, parce que ça crée de l'engouement pour les jeunes et tout ce qui s'ensuit. Comment est-ce que vous allez arbitrer pour qu'elles puissent venir, mais bah, si certaines choses sont prévues dans ce que vous avez, de ce que vous avez prévu ou écrit, mais qui ne se transmet pas pour certaines organisations ou ce qu'elles font, comment est-ce que vous allez faire ?
Bah en fait, le règlement sportif a été finalisé par Ahmed Korchi. C'est-à-dire que pour l'AMI, j'avais proposé un règlement sportif, parce que c'était demandé aussi dans l'appel à manifestation d'intérêt, c'était comment vous allez encadrer la pratique en compétition. Et en fait, j'ai contacté Ahmed Korchi, qui est diplômé et référent, qui est diplômé IMAF et qui est arbitre de MMA. Et donc Ahmed a fait une relecture, donc on a passé plusieurs jours comme ça, on a passé plus d'une semaine comme ça sur la relecture, de sorte à ce qu'on ait un règlement qui soit conforme aussi aux standards du MMA. Donc en fait, on n'est pas du tout en marge, on n'a pas fait un code à la française en se disant bah tiens, on va rajouter ça. C'est pas du tout ce qu'on a fait. C'est ce que j'entends, mais c'est pas ce qui s'est fait. Et pour preuve, tu vois, c'est Ahmed qui a finalisé le code sportif. Le code sportif a d'ailleurs été envoyé là par le biais des ateliers. Aux acteurs médicaux, les organisateurs et organisateurs médicaux et les gens référencés aussi sur arbitrage. Donc eux, ils ont un code sportif qui leur a été envoyé. Ils peuvent mettre des annotations à la marge pour dire ah bah ça peut-être que, et en fait nous renvoyer ensuite le code sportif. Donc si tu veux, j'ai fait un code sportif, donc j'ai fait environ 80% du code puisque Ahmed a rajouté une couche. Moi je croyais que j'étais génial, mais en fait il m'a montré que non, il manquait 20%. Donc en fait il m'a refait des modifications, et après même avec ce code là si tu veux on le resoumet aux acteurs en fait. Donc de sorte à ce qu'après on ait un retour et qu'on soit bien en cohérence. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement les retours, et ce sera après proposé en troisième lecture aux entraîneurs pour avoir comme ça une vision à 360. Donc ça c'est le cas, et donc on s'appuie sur les règles des MMA unifiées et sur le règlement IMAF. Donc on est dans les clous. Après, en ce qui concerne les pratiques dopantes, comme je l'ai dit, nous, on a des protocoles là-dessus. On a une politique très claire sur le dessus. Mais on est, de toute manière, et c'est l'AFLD qui est la haute autorité sur le dopage. Donc, en fait, si tu veux, c'est la discussion qu'on avait avec eux. Par exemple, aux États-Unis, l'UFC passe par une entreprise, mais qui est l'équivalent de l'USADA, qui est l'AFLD pour le territoire nord-américain. Et ben là, en fait, l'UFC passera directement par l'AFLD pour tout ce qui est pratique, pour tout ce qui est prévention du dopage, et puis pour tous les contrôles, en fait. Donc, soit tu mandates une entreprise qui est, entre guillemets, certifiée AFLD pour le faire, mais je ne sais même pas si ça existe en France, soit tu as l'AFLD qui arrive, et l'AFLD, en fait, voilà, ils arrivent sur place, il leur faut un local pour faire les prélèvements, donc il faut que ça se soit pensé, et qu'ils aient l'opportunité de pouvoir faire les prélèvements. Ils prélèvent quand ils veulent, au moment où ils veulent, ça c'est leur protocole à eux de suivi, en fait. Donc, il n'y aura pas de transgression possible. Ça, c'est l'organisation du sport en France, et c'est régi pour tous les sports, hein, c'est régi par la FLD, quel que soit ton sport.
Et il y a énormément d'organisations privées en MMA, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle tant du niveau professionnel, parce que c'est vrai que justement c'est les arbres qui cachent la forêt pour ça. Est-ce que travailler avec ces organisations-là, pour l'instant, ça a été un régal, on va dire, dans le sens où c'est eux qui à chaque fois vous poussent pour mettre en place telle ou telle organisation, ou au contraire, quand vous dites justement au niveau du dopage, au niveau de ceci, cela avec l'USADA, ils disent ça va peut-être poser problème au niveau de la pesée, par exemple le ONE FC, ils ont un système particulier, peut-être que tu es favorable ou non. Comment est-ce que ça se passe justement avec toutes ces organisations, parce qu'il y en a énormément qui poussent?
En fait, la spécificité aussi, c'est que ce sont des organisations qui sont très très professionnelles, en fait. Donc, quand elles arrivent, elles connaissent déjà l'environnement. Donc, en fait, elles tombent pas des nues. Elles connaissent très bien, leurs interlocuteurs. Donc, en fait, on est en discussion avec certaines organisations, pas toutes, hein, et en fait, on est en discussion avec les organisations qui viennent à nous. C'est-à-dire qu'on ne court pas après les organisations. Nous, on est sur notre projet de structuration. On n'a pas appelé l'UFC pour leur dire quand est-ce que vous venez à Paris. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Par contre, l'UFC est rentré en contact avec nous pour savoir effectivement où on en était sur la structuration. Ils sont très intéressés et très curieux de le savoir. Le Bellator a eu exactement la même démarche. Et puis, ils nous disent où vous en êtes, comment ça se passe pour la qualification des arbitres, quelles sont vos dispositions sur l'amateur, quels sont vos points d'étape. En fait, ils sont très curieux de savoir comment on structure. Ils sont rassurés par la démarche parce que là, pour eux, la démarche leur semble organisée et maîtrisée. Donc, pour eux, ça les rassure. Et puis, en fait, ils regardent comment eux, ils peuvent interagir dans ce dispositif-là, en fait. Ils ont toujours été, pareil, très bienveillants et nous dire si vous avez besoin de telles ressources, tu vois, par exemple, pour les statistiques, l'UFC nous a proposé 10 années de statistiques, aussi bien en compétition et en entraînement. Donc ça, c'est des choses que nous, on peut récupérer et qu'on peut proposer aux assureurs, de sorte à ce qu'on puisse avoir une réflexion après sur le tarif de l'assurance. Et puis, finalement, tout le monde en propose. Le Bellator nous a proposé, effectivement, aussi de mettre à notre disposition certains arbitres, si jamais on voulait, pour organiser nos formations et nos sessions d'arbitrage, etc., ou faire des stages, etc. Donc, en fait, ils sont assez bienveillants et, sur ce point-là, et c'est pas du tout directif, en fait.
Et dans le meilleur des mondes, Lionel, on va dire en 2025, si les gens ont la possibilité maintenant de directement démarrer, on va dire, en MMA, dans quelque chose d'hyper structuré, toi, quel serait finalement le parcours idéal pour un athlète qui commence, on va dire, assez jeune ?
Moi, je vais redire la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'il faut étudier des systèmes qui fonctionnent pas trop mal. Donc moi, je pense qu'un athlète, pour moi, tout ce qui est fait là, le paroxysme de ça, c'est un athlète qui commencerait très jeune, qui ferait une belle carrière amateur, qui en même temps, à côté, préparerait un diplôme pour préparer son après-carrière, qui aurait l'opportunité de pouvoir faire son parcours amateur comme il le souhaite et que ça lui fasse plaisir, et qui puisse après avoir une carrière pro, et puis qu'à la fin de cette carrière pro, il ait une qualification professionnelle qui suive pour gérer sa fin de carrière. C'est ce qu'on retrouve sans aucune... sans rêver, mais c'est ce qu'on retrouve au judo quand tu vois le parcours de Riner et qu'à côté il a eu un aménagement pour Sciences Po. C'est ce qu'avait fait aussi Lucie Berthaud à la boxe. Il y a pas mal de gens à l'INSEP avec le double projet qui passent aussi des diplômes de kiné et qui en même temps sont sur des équipes de France d'escrime, de fleuret ou autre, et qui effectivement en fin de carrière t'as moins de stress parce que tu sais que tu vas pouvoir avoir une activité professionnelle à côté ou un partenariat pour certains au niveau qui travaillent en gendarmerie ou avec les armées, qui après peuvent poursuivre leur carrière. Ça s'est vu à la natation au sein des armées. Donc effectivement, moi, ce serait ça. Ça veut dire que ça permettrait d'avoir des sportifs qui puissent vivre vraiment de leur passion du début jusqu'à la fin avec le parcours le plus aménagé possible, quoi.
Est-ce que tu penses que ça va être possible, cette révolution entre guillemets culturelle et explosion du MMA en France, où là, on est plus dans le fantasme ?
On n'a aucun indicateur. Donc, c'est-à-dire que même là, tu vois, ce qui est proposé sur les ateliers en disant moi, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier des gens sur toute la France, c'est pas anodin. C'est-à-dire que je suis même surpris de ce que je récupère. C'est-à-dire qu'il y a des régions sur lesquelles j'ai plus de ressources que j'aurais pu imaginer, en fait. D'accord. Donc, en fait, le fait de dire déposer une candidature si vous voulez aider à la collaboration, à la structuration, c'est vrai qu'on n'a pas que des gens qui sont 100% MMA, mais on a des gens qui sont proches du MMA ou qui n'hésiteraient pas à porter leur pierre à l'édifice. Et c'est important aussi de pouvoir lever. Aujourd'hui, les chiffres, ils vont entre 10 000 et 60 000 pratiquants. Donc, en fait, il y a un écart qui est considérable. L'autre truc, c'est qu'on est un sport, chez nous, sport de contact, c'est assez compliqué, toujours pareil, de prendre une licence. Donc, en fait, on a des pratiquants et on a des licenciés. Mais en fait, c'est pareil, si tu regardes sur le Muay Thai ou le kickboxing, on a beaucoup plus de pratiquants que de licenciés. Ouais, on le sait, en fait. Donc après, quand on est autour de la table et qu'on a une discussion avec le ministère ou, tu vois, certains organes du pouvoir public, c'est compliqué parce que nous, on sait qu'on a du monde derrière et que ça serait bien de faire comme ci ou comme ça. Mais si on me demande les chiffres et que j'ai un chiffre de licencié qui n'est pas du tout représentatif, c'est vrai que on a moins de poids sur la table. Donc c'est pour ça que je te dis que t'as vu, tout est toujours autour de cette idée d'adhésion, quoi. C'est super, super important.
Et est-ce que tu as évoqué, du coup, on a évoqué le parcours idéal pour quelqu'un qui débute le sport. Est-ce qu'il y a un nombre requis de combats à avoir dans chacune des classes, c'est-à-dire si on veut passer de la classe B à la classe A, et puis, etc. Est-ce qu'il y a un nombre précis ou est-ce qu'il peut y avoir des surclassements, des choses comme ça ?
Alors là, ça, c'est pareil, c'est une question qui fera partie des questions proposées au groupe de travail. Nous, on a notre petite idée. Dans notre idée, il faut, et de toute manière, c'est ce qui va se passer, c'est des choses qui vont bouger, à mon avis, d'une saison à l'autre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je pose un chiffre pour la saison 2020-2021, et si j'ai mon nombre de pratiquants qui augmente, en fait, mon chiffre, il deviendra ridicule, ne serait-ce qu'à la saison prochaine. Donc, en fait, ça, c'est des régulations qui sont faites au fil de l'eau. C'est pour ça qu'Ahmed, il a constitué, parce qu'Ahmed, il est très malin, il a constitué un code sportif et un règlement à côté. Ça veut dire que le règlement, on a plus de facilité à le manipuler, en fait, de saison en saison. Et le code sportif, lui, si tu veux, il reste, entre guillemets, moins modifiable. En fait, c'est un petit peu la même chose, puisque le sport, c'est la même chose que l'organisation de l'État. C'est un petit peu comme la Constitution, et puis et les lois, les arrêtés, en fait. Il y a des choses qui sont... La Constitution, on n'y touche pas, sinon c'est-à-dire qu'on change la République. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Le code sportif, on y touchera pas, ou peu. On espère ne pas avoir été touché, on espère avoir été suffisamment vigilant là-dessus. Par contre, sur le règlement sportif, on pourra apporter des modifications parce qu'il y a des choses qui seront amenées à changer en fonction des effectifs. Donc après, là, tu vois, l'IMAF propose, là, comme je te dis depuis la semaine dernière, qu'un niveau requis par rapport au grade technique. Donc effectivement, ça peut être intéressant aussi de rajouter cette notion d'expérience compétitive. Donc en fait, il faudrait qu'on trouve un système intelligent à la croisée des deux, quoi. Mais les acteurs, genre pareil, seront consultés.
D'accord. Et j'avais une question par rapport à toi, le fait d'avoir fait cette bascule entre le métier de coach et là aujourd'hui où c'est quelque chose, on va dire, un petit peu plus de bureau, est-ce que là aussi l'adaptation a été un petit peu compliquée ou au contraire, c'est parfaitement ce qui te convient maintenant et tu te verrais, pourquoi pas, rester là-dedans ou au contraire revenir un petit peu plus sur le terrain, entre guillemets?
Alors moi, quand j'avais fait le DES, si tu veux, c'était la finalité, c'était ça. C'est-à-dire que le DES, c'est un diplôme qui prépare à cette fonction et c'est un diplôme qu'on utilise aussi pour parfois, après, poursuivre avec le professorat. Et après, une fois que tu as ton professorat, il est divisé en trois parties. Tu as soit le développement, enfin, tu as le développement, la formation et le haut niveau, en fait. Donc après, bah, tu choisis un des trois ou parfois les trois, etc. Ça dépend. Donc en fait, moi, j'avais choisi, si tu veux, il y a déjà quelques années, parce que je pourrais pas être tout le temps. Je vieillis, quoi. je pourrais pas non plus tout le temps être sur le terrain, ouais. Et je suis content d'alterner entre une partie terrain et une partie et filer un coup de main aussi sur ces trucs là et je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément passionnés par le fait par ces réunions parfois interminables, par le fait de faire des PowerPoint, par le fait de rédiger des trucs de 70 pages, etc. Moi, aujourd'hui, en 2020, ça ne me dérange pas. Et si je peux contribuer et apporter de l'expérience là-dessus et proposer ça, en fait, tu vois, j'en serais très content. Donc, en fait, je suis à cheval entre les deux et je trouve ça, moi, ça me convient tout à fait. Je trouve ça très bien.
Et j'avais une ultime question, parce que, bon, on t'a embêté pour un petit peu de temps,
non,
mais
c'est rare
pour les gens qui connaissent tout. Justement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué en tant que fan de MMA, nous, et puis observateurs comme toi également. Il y a toujours le cas des combattants qui sont présents trop longtemps dans le sport. Est-ce que pour ça, vous avez prévu quelque chose où il y a des athlètes, par exemple BJ Penn, qui va peut-être passer tous les examens physiques, mais ensuite, quand tu le vois dans la cage, tu fais quand même, il aurait dû arrêter depuis 10 ans. Est-ce que là, vous avez prévu quelque chose pour dire, bah, 45 ans, on arrête tout?
Donc là, en fait, on disait, tu vois, par exemple, on avait posé avec Ahmed 40 ans comme limite. On avait posé 40 ans. Et parce que c'est aussi, c'est une réflexion par rapport à ça. Cet âge de 40 ans, c'est pareil. Il ne faut pas penser que c'est un âge qui a surgi comme ça, qu'on a tiré au sort. C'est que généralement, en fait, on sait que les gens, en fait, ils commencent à avoir des petites plaques d'athérome, en fait. C'est-à-dire, ils ont un petit peu de c'est comme du gras, en fait, dans les vaisseaux sanguins, et que si tu prends un coup à la tête et que tu as un de ces petits bouts qui monte et que ça fait un caillot, il peut t'arriver quand même des pépins au cerveau. Donc en fait, on sait que la probabilité, elle augmente avec l'âge d'avoir justement des plaques d'athérome, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette limite de 40 ans, notamment. Donc en fait, l'âge de 40 ans, il est lié à des considérations médicales. Donc
d'accord.
En fait, c'est ce que nous on a établi. Après, bien sûr, il y a toujours les principes de dérogation.
Donc, Yoel Romero, il pourra bien évidemment combattre.
Voilà, donc après, il y a des gens qui pourront combattre parce que, justement, sur le plan physiologique et psychologique, et dans le cadre du souci de la préservation de l'intégrité, ça fonctionne, et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Cependant, Guillaume, j'attire ton attention. Jusque-là, en fait, c'est très rigolo, parce que là, on peut se poser la question de faire une éventuelle validation technique pour un athlète en fin de carrière, Et là, à la limite, on se dit, ah ouais, parce que ça nuit un petit peu au spectacle quand même. Mais ouais. Pourtant, est-ce qu'on aurait la même réflexion sur quelqu'un qui, justement, embrasserait la carrière pro? Et en fait, tu veux, le certificat de capacité professionnelle que moi, je mets en début de carrière, bah, en fait, il sert à ça. C'est-à-dire que c'est pour pas qu'on ait des gens où on se dit, ah non, peut-être que lui, il n'aurait peut-être pas dû, il aurait peut-être pas dû combattre. Tu vois. D'accord. Et en fait, tu vois, là, ça semble très perspicace en fin de carrière parce qu'on a des exemples. Parce que tu vois, on a un BGPN qui se balade comme ça et on se dit c'est pas très prudent ou tu vois, c'est vraiment une drôle d'idée. Donc là, on se pose la question. Et aujourd'hui, on l'a pas dans l'œil ce qui pourrait se passer si on mettait pas ce même supposé filtre en fait en entrée. Si tu veux, je pense qu'on aurait, si on fait pas ça, j'ai peur qu'on ait vraiment des combats. Et en fait, quand quelque chose fonctionne, les gens ils en parlent à 4 personnes. Quand ça fonctionne pas, ils en parlent à 12 personnes. Ouais. Donc en fait, il suffit qu'on ait un accident avec il suffit qu'on ait un combat qui visuellement soit pas joli du tout et avec un écart technique qui soit trop important sur quelqu'un qui nous aurait dit ouais mais j'ai fait tant de combats ci, tant de combats là et tout machin et qu'on soit pas à même de le dire et puis le sherdog c'est pas une science exacte hein. Tapologie non plus on sait très bien loin de là donc en fait je peux pas me dire je m'appuie sur le sherdog ou sur tapologie et on aurait des écarts comme ça de combat et après pendant des années si tu veux pendant 20 ans on s'est battu contre la perception du MMA. On lui voyait des trucs et on me parle encore des combats des premiers UFC en fait.
D'accord. Oui.
Mais quand tu parles avec les institutions, c'est pas des gens comme nous, c'est pas des gens qui connaissent aussi finement que vous l'activité. Donc les gens ils voient un truc à la vite fait, ils ont pas d'idée du contexte. Est-ce que c'était en 90 ou est-ce que c'était avant-hier pour eux, ils se posent pas la question. Et donc ils disent ah bah le MMA c'est ça. Et donc en fait ce serait assez compliqué qu'on ait des pour les premières saisons ou pour notre début, parce qu'on est comme ça sur une phase où on doit prendre un train en marche. Hein. Le train du développement, il ne nous attend pas. Hein. C'est-à-dire que le mouvement sportif, il avance. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre le MMA à la même vitesse pour qu'on puisse rentrer dedans. En fait. Donc, si tu veux, toutes les idées de précaution qui sont prises, elles sont prises dans ce sens-là. Et comme tu dis, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir sur un combattant en fin de carrière. Mais après, c'est assez compliqué. Si lui, il se sent bien comme ça, s'il a l'expertise, en fait, s'il a l'expertise et s'il a la perception, et s'il est pertinent dans sa démarche, tu vois, intellectuellement et psychologiquement, qu'il n'est pas en danger, tu vois, ni mentalement, ni physiquement, c'est assez compliqué de lui dire bah non, tu peux pas combattre. Chose qu'on n'aura pas, on n'aura pas ce retour d'expertise et d'expérience sur quelqu'un qui commence en pro.
Complètement.
Parce qu'il ne sait pas du tout. Il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Moi, je te dis, ma génération, et je n'ai pas fait une carrière de dingo, loin de là, mais ma génération, on faisait beaucoup d'apprentissage quand on était à l'intérieur de la surface de combat. Quoi.
D'accord. Oui.
C'est dans le vestiaire qu'on disait « Ah ouais, non, ça, en fait, il ne faut jamais le faire, tu vois. » Ah d'accord, et c'est là que tu découvrais des trucs, parce que évidemment, et on est une génération où, comme tu dis, moi, j'ai commencé par le pied-point, et à l'époque, à la FFCDA, il fallait que tu aies un certain nombre de points. Tu avais tant de points en cas de victoire, tant de points en cas de défaite, et tant de points en temps de nul. Et tant que tu n'avais pas tes points, tu ne passais pas d'une classe à l'autre. Et mine de rien, même quand j'en parle avec des anciens du pied-point, on sait que cette période, elle a été terrible. On sait qu'on a sorti des gens vraiment forts. Et on sait que quand tu étais en classe B, déjà... C'est franchement en classe B c'était ça secouait et en classe A c'était vraiment super chaud. On sait que sur certaines années on peut dire ouais classe A c'était vraiment difficile. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est facile, mais je veux dire qu'on sait qu'il y a des classes à certaines années c'était compliqué. En classe D c'était des chiffons, c'était tout était possible etc. Tu pouvais rester très longtemps, mais après on sait que ce système de points il a permis aussi d'avoir des classes A d'excellente qualité. Et le pied point il a vraiment pas à rougir de tous les champions qu'il a pu le pied point français il a été quand même pourvoyeur d'énormes champions jusqu'à encore aujourd'hui. Donc c'est que quelque part c'est cette idée de mettre des points et des sas pour passer d'un endroit à l'autre, c'est au niveau de la performance et sur la qualité, on sait que ça permet quand même d'avoir des excellents combattants.
Et ça va être vraiment ma dernière question, pardon. Sur les compétitions IMAF, moi je trouve que c'est super, c'est hyper bien organisé, mais c'est vrai qu'il y a un peu comme ce que fait l'UFC où ils favorisent un petit peu le système nord-américain, là ça favorise un petit peu les pays de l'Est. Est-ce que toi tu trouves que le fait qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu entre guillemets, t'es pas du tout le temps de te poser quand t'entres dans les rounds parce que c'est beaucoup plus court, qu'il y ait certaines frappes qui soient, enfin. Supprimer entre guillemets méthode de percussion qui soit supprimée, faudrait peut-être changer ça, ou au contraire là ce qui se passe aujourd'hui c'est vraiment parfait, c'est quelque chose qui est hyper rodé, c'est une machine qui a l'air parée vraiment pour les Jeux Olympiques.
Pour moi, le système IMAF, je le trouve. Moi, je le trouve pas. Faudra que tu m'expliques ça, c'est intéressant. Moi, je le trouve pas forcément favorable plus à une nation à une autre. En fait, moi, j'ai fait championnat du monde 2016-2017 et deux ouais. Open d'Europe en pareil 2017. Donc, en fait, j'ai fait quatre compétitions et j'ai pas eu l'impression, tu vois, que le système était favorisait plus une nation qu'une autre. Donc, je suis intéressé pour voir comment, pourquoi toi tu le vois comme ça. Et mais je trouve qu'effectivement le format est bon, que visuellement, que c'est très bien pensé, que c'est très très cadré et que c'est effectivement aussi de ce genre de compétition dont on a besoin pour après avoir justement une visée olympique ou une meilleure reconnaissance aussi du sport qui nous permettra d'avoir le haut niveau et ainsi de suite, quoi, comme on l'a déjà évoqué, quoi. Et pourquoi toi tu trouves que ça favorise plus une nation ou un style?
C'est, on va dire, comme les rounds sont plus courts et qu'il y a quand même cet accent qui est mis sur le grappling. Si par exemple, justement, tu sors de l'école kazakh ou russe et que tu es hyper bon là-dedans et que tu es un Français, on va dire, tu viens un petit peu plus du striking, tu peux te retrouver face à un adversaire qui va faire du lay-on press sur toi et grosso modo te mettre au sol, attendre sagement, hein, bien évidemment, la fin du round et puis ensuite gagner tranquillement la décision. Et c'est pour ça, justement, je me disais, pour les strikers, ça peut être un petit peu plus compliqué face à ceux qui sont justement, qui sortent l'artillerie russe, qui ont vraiment tout bien mis en place pour que justement au niveau grappling il soit au top.
En fait, ça c'est super intéressant parce que c'est le constat qu'on avait fait Moi j'étais avec David Pierre-Louis sur les mondes en 2016 et c'est le constat qu'on avait fait à l'issue des mondes puisque en fait on s'est vraiment rendu compte que c'était le mode opératoire mais pour le coup de toutes les nations qui faisaient du MMA depuis longtemps. C'est-à-dire le fait d'observer. Nous, on avait des gens qui, on avait un peu de tout. On avait des gens qui percutaient, puis des gens qui étaient bons au sol, etc. Mais on observait effectivement qu'ils attendaient parfois quand c'était assez peu défini, ils attendaient toujours la dernière minute ou les 30 dernières secondes pour faire le dernier amené qui va bien et ensuite.
Exactement, ouais, c'est ça.
Verrouiller. Mais ça, par contre, tu vois, je l'ai observé. Les Suédois étaient super forts là-dessus, et même les Néo-Zéd en fait. C'est-à-dire que les Néo-Zélandais travaillaient comme ça, les Américains travaillaient comme ça, et on voyait que toutes les nations qui avaient un peu plus de maturité sur le travail en cage et sur toutes ces choses-là, et ben en fait, c'est des choses qu'elles appliquaient super facilement. Ce qui fait que ça a vraiment amené une réflexion. Nous, on a vu que, par exemple, nos athlètes, ils n'étaient pas déboussolés. Mais par contre, ils n'utilisaient pas la cage comme un outil. C'est-à-dire qu'entre travailler sur surface ouverte, surface tatami, travailler sur ring ou travailler sur cage, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Et que là, en fait, pour nous, nos Français, ils étaient dans une surface de combat qui, accessoirement, était délimitée. Tu vois, c'était ça l'idée. Alors que, faut pas se leurrer, tous ceux qui avaient déjà l'habitude, parce qu'ils avaient un bon circuit amateur national aussi, et notamment les Anglo-Saxons, et puis comme on l'a dit, certains pays d'Europe, etc., et ben, eux, ils savaient très, très bien utiliser la cage pour justement les amener à plus pouvoir reculer et pouvoir poser ce dernier ramené dans les 30 dernières secondes. Et en fait, on s'est dit que c'était aussi corrélé au fait que nous, comme tu l'as dit, malheureusement, toutes les structures n'ont pas une cage, on n'a peut-être pas suffisamment de cage pour qu'on puisse travailler. Il faut aussi qu'on ait de la compétence hein, sur ce travail de catch control qui est une technicité à part entière. Donc l'idée de la passe pédagogique, c'est ça aussi. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est très très fort sur le catch control et qui dit moi je rédige des fiches ateliers pédagogiques sur le catch control, après on met ça dans la base PEDA et puis en fait cette compétence, cette expertise-là, on peut la diffuser au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je dis que plus on le diffuse, plus en fait tu vois, toi dans le Loir-et-Cher, tu savais pas faire hier matin, maintenant tu sais faire du catch control et puis tu as un truc et puis ça va amener des pistes de réflexion de ton côté, ce qui fait que toi tu peux l'enrichir et ainsi de suite. Je veux dire que c'est l'idée en tout cas.
Et pour ça, vous allez mettre un accent, il y aura une volonté de mettre un accent là-dessus sur cette partie sol, parce que c'est vrai que là au dernier championnat IMAF, c'était pareil, tous ceux qui dominaient à quelques peu d'exceptions près, même quand tu regardais les Français, justement, tu avais ce côté dernière minute, tu sécurises justement la mise au sol, et quand tu voyais les finales, c'était Bahreïn contre Russe ou Kazakhstan contre Bahreïn ou Russie, et chaque fois, tu avais le même type d'athlète finalement.
Et en fait, tu vois, c'est des postures que tu retrouves vraiment entre la boxe amateur et la boxe pro. C'est-à-dire que tu vois, la boxe pro, la boxe amateur, en fait, c'est au nombre de touches. C'est pour ça que tu as les scoring machines, etc. Ouais. Donc, c'est au nombre de touches. La boxe pro, en fait, il faut savoir que l'idée, c'est la mise hors de combat, en fait. Le but du jeu, c'est ça, c'est toucher sans être touché, et puis si, avec la volonté de pouvoir percuter de manière distincte et puissante. Donc, comme tu as deux jeux qui sont différents, eh ben, mine de rien, tu as deux activités qui sont différentes. Ce qui fait qu'un boxeur, tu vois, Sofiane Oumia, il a vraiment une boxe qui est tout à fait adaptée à l'amateur. Et en fait, on le voit, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être excellent en pro, mais ça veut dire que pour le coup, les boxeurs amateurs, en termes de déplacement, de trajectoire, de vitesse, c'est un peu différent de ce qu'on trouve sur la boxe pro. Et je pense qu'on arrivera petit à petit à une présentation qui soit un peu comme ça. Ça se trouve, le MMA amateur, s'il se conforme au circuit amateur international, ouais. il s'adaptera pour répondre aux standards du circuit international. Et par contre, on sait qu'il y aura un transfert à faire pour passer sur le pro, parce que ce sera une autre discipline. Mais ça, c'est plus, si tu veux, c'est plus une considération de l'IMAF, en fait. Ça, faudrait en parler avec Bertrand Amoussou, qui représente la France à l'IMAF. Et invitez-le.
Et après, on l'avait déjà invité.
Non, mais c'est vrai que ça, c'est, et si ça se trouve, on arrivera comme ça à une différence d'activité liée au système réglementaire. Ça, c'est logique. Mais il faudrait effectivement en parler avec Bertrand, c'est intéressant.
Mais c'est vrai que parce que finalement, c'est en fait, comme tu viens de le dire, c'est vraiment deux disciplines qui sont différentes parce que de par le système de notation, et comme tu as fait le parallèle avec l'anglaise, c'est de toute façon, je pense que ça avantagera toujours les lutteurs en amateur, disons le système de notation. Et ce n'est pas forcément un mal parce que du coup, bah, pour nous, pour nos athlètes français, déjà, ça fait une super expérience d'affronter des mecs qui justement ont que ça en tête et ont ça comme stratégie. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas nécessairement d'impact. Alors après, ce qui est bien, c'est comme le record amateur, de toute façon, n'est évidemment pas affiché en pro, ça fait de l'expérience et après, c'est entre guillemets effacé. Mais c'est vrai que ouais, de toute façon, je pense pas non plus qu'on pourra passer outre ça et le fait qu'il y aura des gros lutteurs qui auront peut-être un meilleur niveau, et quoique, c'est même pas dit encore en lutte, que les Européens de l'Ouest, et ce sera toujours compliqué probablement.
Ouais. Eh bien, Lionel, toute dernière question, là, c'est sur le MMA dans le futur chez les pros, parce que oui, c'est cette fameuse expérience en tant qu'entraîneur. Est-ce que toi, tu vois un changement, entre guillemets, de paradigme et tu te dis, on va encore aller beaucoup plus loin, justement, dans le grappling et dans l'utilisation de la lutte dans les années à venir, parce que maintenant, on voit qu'il y a tout le monde est bon au sol, tout le monde est bon debout et il faut gagner, il faut la jouer de plus en plus sécurité.
Ouais, je pense. Là, en plus, la particularité du MMA, en fait, c'est que les entraîneurs, on sont vraiment dans un mode de réflexion. Et ça, c'est la discipline, en fait, de par sa confidentialité au départ et la difficulté, justement, de trouver du contenu, etc. En fait, l'entraîneur de MMA, il cherche partout. Quand tu parles, vous le savez bien, quand tu commences à parler avec un entraîneur de MMA, tu te rends compte qu'il a touché un peu à ça, il a mis ses mains là-dedans et tout. Donc, et là, je pense que ça va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous bien conscients de la morphologie, en fait, des combats actuellement. Et forcément, on va avoir de la qualification supplémentaire, justement, sur la lutte. Et comme on le dit, le sport, il est en complète mutation. C'est-à-dire que c'est un sport qui évolue. Je parlais des Stat Fightnomics, où on regarde comment les gens gagnaient, comment les combattants gagnaient, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, et on observe des modifications. Quand tu regardes les clés qui passaient il y a 10 ans, quand tu regardes les percussions, qu'est-ce qui se passait il y a 10 ans, aujourd'hui, ça n'a strictement plus rien à voir. Donc, je pense que comme c'est un sport qui est en totale mutation, ça va continuer de bouger. J'en parlais avec Alassane Gay, qui est entraîneur des équipes de France de Muay, et ma réflexion, c'était de savoir, est-ce que le Muay, en fait, il bouge toujours? Donc, le Muay, bien sûr, il bouge encore un petit peu, mais par rapport à nous, en fait, par rapport au MMA, puisque justement, il y a plusieurs disciplines qui elles-mêmes sont amenées à évoluer, et puis après, c'est aussi comment toi, tu les mets ensemble les unes avec les autres, et ben voilà, on se rend compte que le MMA n'a pas fini d'évoluer, quoi.
Bien, super. Merci beaucoup, Lionel. C'était une véritable masterclass.
Merci à vous. Merci à vous.
Soit.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez la sphère et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.